populaire, populiste. Je suis parti de ces mots. Et puis, je suis tombé sur ça que vous connaissez. Cette affiche intéressante, c'est qui le peuple? Point d'interrogation. Avec au centre la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Alors, évidemment, quand on tombe là-dessus, il y a une réaction du grammairien, peut-être déjà, la question est mal formulée. Ouais. il y a une faute de français, mais cette faute de français, justement, c'est sur cette faute qu'on peut peut-être essayer de raisonner. Au fond, je ne vais pas sortir d'une réflexion sur le sens de cette faute. La bonne, entre guillemets, formulation, ce serait, alors toujours avec en maintenant le même type de faute grammaticale, c'est quoi le peuple? Et puis, la formulation correcte nous donnerait quelque chose comme qu'est-ce que le peuple? Alors, c'est intéressant d'essayer de se... Merci. C'est intéressant d'essayer de se demander quel sens différent peuvent avoir ces deux questions. Qu'est-ce que le peuple? Et la question, c'est qui le peuple? Ce qui m'intéresse, c'est le qui. Bien sûr, à la place du qu'est-ce que. La question qu'est-ce que, les philosophes la connaissent bien. C'est peut-être même comme ça que la philosophie a commencé. C'est une question qui nous invite à donner une définition. Et dans le jargon des philosophes, c'est une question qui nous invite à déterminer une essence. Une essence, c'est-à-dire une propriété caractéristique qui permet de distinguer absolument la chose qu'on cherche à définir. Propriété qui est telle que on peut par là définir un groupe, on peut par là définir un ensemble. Et donc, on dira, tous ceux qui ont la propriété peuple sont des gens qui appartiennent au peuple. Être du peuple, c'est avoir la propriété peuple. Autrement dit, si on pose la question en termes d'essence, on va, un petit peu comme les instituteurs à l'époque glorieuse des ensembles ou des patates, on va faire une patate qu'on va appeler le peuple. Dans cette patate, il y a N éléments. Tous les éléments ont la propriété P pour pouvoir appartenir à l'ensemble peuple. Ceux qui n'ont pas la propriété P sont en dehors du peuple. Ceux qui ont la propriété P appartiennent au peuple. Si j'utilise un langage de mathématiques très élémentaire, c'est à peu près comme ça que ça se pose. Alors, du coup, à partir de là, on entre dans des débats byzantins qui vont porter sur les frontières, qui vont porter sur les marges. Est-ce que si on est tel, on appartient ou pas au peuple? Des débats similaires pouvaient avoir lieu dans mes années de jeunesse sur la question de l'appartenance au prolétariat ou pas. Donc, la question qu'est-ce que nous engage dans ce type de réflexion, et on voit qu'une série de débats sont en fait déterminés par ce genre de questions. La définition la plus commune qu'on donnerait du peuple, toujours dans le cadre de cette question, ce serait de dire le peuple, c'est pas compliqué finalement. Le peuple, c'est tout le monde. Ah oui, mais pas tout à fait quand même. Les enfants, non. Les femmes, ça dépend des époques. Et puis, alors c'est l'ensemble des citoyens. Ensemble des citoyens. Bon, on n'est pas tellement avancé parce qu'on n'a fait que déplacer la question. Et on se retrouve sur la question qui est au fond exactement la même. Qui est-ce qui est citoyen? Comment définir la citoyenneté? Et bon, ce déplacement nous fait avancer un petit peu quand même, parce que si on commence à définir la citoyenneté, on peut faire un petit détour par l'anglais. Citizenship en anglais, on le traduirait au fond par nationalité. Donc, c'est qui l'ensemble des citoyens? Ce sont l'ensemble des nationaux. Et donc, du coup, ce petit détour permet de voir que cette définition d'essence, au lieu d'avoir une clarification, on a une confusion. On a deux mots, on a deux noms. Peuple d'une part, nation d'autre part. Et quand on se demande ce que c'est que la nation, là, la confusion et la difficulté s'accroît, parce que le terme de nation a, depuis la fin du XVIIIe siècle, au fond, depuis la Révolution de 89, le terme de nation a deux sens, signifie tout de suite deux choses. Depuis 89, la nation, et c'était le slogan immédiatement au moment de la Révolution, la nation est en danger, il faut sauver la nation. La nation, c'est une entité politique. C'est une entité politique incarnée, une entité politique active incarnée par un État. Oui, mais le sens ancien n'a pas disparu pour autant. Et le sens ancien nous renvoie à un mot grec que le terme de nation traduit plus ou moins bien, en passant par le latin, qui est le terme d'ethnos. Il y a un sens ethnique de nation. La nation, c'est un groupe de personnes unies par des liens de sang, de langue, de culture, et vivant éventuellement sur le même sol. C'est à peu près la définition que donne le petit Larousse ou le petit Robert. Alors, on voit tout de suite que si peuple et nation ont quelque chose en commun, du coup, notre notion de peuple elle-même se dédouble. Elle fait au moins, je pense qu'elle fait plus que se dédoubler, mais elle se dédouble tout de suite. Peuple va prendre une signification, une valeur politique, ensemble des citoyens. Peuple va prendre une dimension ethnique. Par peuple, on entend une communauté dont l'identité se reconnaît par le partage d'une culture commune. Dimension ethnique qui a deux versants. L'un naturaliste, voire racialiste. Dans ce cas-là, on insiste sur les origines du groupe. Et on met en avant la nécessité de préserver la pureté, pureté de la langue ou pureté du sang. Tout ce qui conduirait à dire, par exemple, le peuple français, ça commence avec Vercingétorix. Ça commence avec les Gaulois. Ce qui est un mythe national produit par la Troisième République. Ou bien, débat qui traverse le XIXe siècle, le peuple français, ça commence avec Clovis, c'est-à-dire ça commence avec la royauté des Francs. Deuxième version de ce peuple ethnique, ce serait une version non pas naturaliste, mais une version historiciste. En disant non, ce n'est pas si simple, il n'y a pas d'origine ou de racine naturelle qu'il faudrait préserver dans leur pureté à travers l'histoire. C'est au cours de l'histoire que le peuple se constitue. Il se constitue en fabriquant son identité de groupe à travers les conflits qui l'ont traversé, par des apports extérieurs successifs qui se sont synthétisés tout au long de l'histoire. L'identité se produit par synthèse. Dans ce cas-là, pour reprendre l'exemple que je prenais, quand est-ce que commence le peuple français? Ben, il commence pas une fois, il commence deux fois. Il commence avec Vercingétorix et il commence avec Clovis. Deux commencements qui indiquent que les apports extérieurs, les apports des populations dites barbares au moment des invasions barbares, au moment de la chute de l'Empire romain, vont modifier, vont faire une sorte de melting pot, et que ce melting pot va encore se modifier, mais avec un noyau consolidé autour du mélange gaulois-franc. Peu importe, d'ailleurs qu'on est dans le mythe, hein, c'est pas la vérité de la chose qui m'intéresse là, c'est la construction d'un modèle de représentation. Bon, l'un de ceux qui... Il y aurait deux grands... Un grand théoricien et un praticien qui utilisent cette théorie. Le grand théoricien de ça, c'est Michelet. Et quelqu'un qui développe complètement cette idée, je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Bonsoir. Je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps, mais quelqu'un qui développerait cette idée, on pourrait s'amuser à... Mais ça va peut-être vous surprendre, c'est De Gaulle. De Gaulle a une théorie du peuple à travers l'histoire, a une théorie du peuple en conflit, et reprend cette idée de deux commencements du peuple français. Alors, dès qu'on commence à se poser la question qu'est-ce que le peuple, et ça a été la base de mon travail, ce qui est frappant, c'est qu'au lieu d'avoir une réponse, on a tout de suite plusieurs. Et on se trouve tout de suite avec plusieurs peuples. À ça se rajoute une autre dimension. C'est un certain usage politique de la notion de peuple, celle qui dit, attention, le peuple, c'est pas tout le monde. Le peuple, c'est ceux d'en bas par opposition à ceux d'en haut. C'est ceux qui sont dirigés par opposition aux dirigeants. C'est ceux qui sont dominés par opposition aux dominants. Cette distinction est aussi ancienne que la notion de peuple. Et dès le début, dès qu'on utilise le terme de « demos » en grec ou dès qu'on utilise le terme de « populus » en latin, les deux sens viennent se mélanger. Le peuple, c'est tout le monde, ou bien le peuple, c'est seulement ceux qui sont dirigés. Celui qui théorise complètement le propos, c'est-à-dire le peuple, c'est le point de vue d'en bas, c'est Machiavel. Machiavel qui a une définition du peuple très, très intéressante, sur laquelle on pourra revenir si vous le souhaitez, je ne m'y attarde pas, consistant à dire les grands sont ceux qui veulent commander. Le peuple, c'est l'ensemble de ceux qui ne veulent pas obéir. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a toujours du peuple d'une certaine façon. Ça veut dire aussi que le peuple, ce n'est pas ce groupe qui veut prendre le pouvoir à la place des grands. Le peuple, ce n'est pas ceux qui veulent commander à la place des grands. Le peuple, c'est un point de vue de révolte, c'est un point de vue de résistance, c'est ceux qui ne veulent pas obéir. Ne pas vouloir obéir, ça ne veut pas dire qu'on veut commander. Ça veut dire qu'on se met dans une autre logique, justement, que la logique commandement-obéissance. Alors, si on progresse un peu dans la réflexion, je soutiendrai que la notion de démocratie a concentré beaucoup, si ce n'est la totalité, des difficultés de cette notion de peuple. En effet, si on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, définition banale, définition courante, banale, mais très compliquée, extrêmement compliquée. Cette définition enveloppe une première affirmation. Dans la démocratie, c'est le peuple qui est souverain. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus. Le souverain, c'est celui qui commande de façon telle qu'il n'a de compte à rendre à personne. C'est celui qui est détenteur du pouvoir suprême, sans supérieur au-dessus. Donc la démocratie, c'est ce régime dans lequel le peuple est souverain. Le peuple est fondement du pouvoir. Souveraineté du peuple. D'accord, mais si on reprend la définition... La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Gouvernement du peuple, il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est le peuple qui est gouverné ou est-ce que c'est le peuple qui gouverne? Est-ce que c'est le peuple qui est objet du gouvernement ou est-ce que c'est le peuple qui est sujet du gouvernement? Et on voit bien la difficulté qui s'explicite dans la suite de la définition. Par le peuple, donc pas de problème, c'est le peuple qui gouverne. Pour le peuple. Et voilà la difficulté. Comment peut-on être en même temps en position de commander et en position d'obéir? Comment le même peut être à la fois gouvernant et gouverné? Si on reprend la distinction de Machiavel, très utile en la matière, on voit tout de suite qu'il y a une contradiction. Comment le peuple peut-il ne pas être divisé, divisé d'avec lui-même? On ne s'en sortira pas, comme on s'en sort habituellement, dans un État qu'on qualifie de démocratie, en disant ben, « c'est pas compliqué, la démocratie c'est quand le peuple choisit ses dirigeants ». Et donc la division du peuple avec lui-même se résout, la contradiction se résout par le jeu du représentant et du représenté. C'est le peuple à travers ses représentants qui gouverne, et c'est à lui-même en quelque sorte qu'il obéit en obéissant à ses représentants. On ne s'en sort pas. Pourquoi ? Ben parce que, en disant cela, on a escamoté la question principale, et je reprends la formulation que Rousseau donne de cette question, avant de savoir comment un peuple choisit ses dirigeants, il faut déterminer, je cite Rousseau à la lettre, l'acte par lequel un peuple est un peuple. Il faut comprendre l'acte par lequel un peuple est un peuple. Et donc, en disant que le peuple, c'est celui qui choisit ses dirigeants, on escamote la question, on s'interdit finalement de se poser le problème de savoir qui est le peuple, c'est-à-dire de se poser le problème de savoir quel est cet acte par lequel un peuple est un peuple. Je soutiendrai qu'en escamotant cette question de l'acte constituant du peuple, on a ce que j'appellerais un point de vue étatique sur le peuple. Le point de vue que l'État prend sur le peuple. Qu'est-ce qui caractérise le point de vue que l'État prend sur le peuple? Deux choses essentiellement. Première caractérisation, considérer que le peuple est constitué, que le peuple est clairement circonscrit. Autrement dit, qu'on peut cerner le peuple par une frontière délimitée, précise. Deuxième caractéristique, faire de cette masse circonscrite autour d'une frontière administrative ou géographique, peu importe, faire de cette masse circonscrite autour d'une frontière l'objet d'une politique. C'est-à-dire montrer que on fait son bien en distribuant et en prélevant l'impôt et en redistribuant l'impôt, en gérant la redistribution des revenus, en l'éduquant, en assurant sa sécurité, la sécurité intérieure, extérieure, etc. J'appellerais ça, en reprenant le terme chez Jacques Rancière, non pas de la politique, mais l'administration de la police. La police, c'est tout ce qui concerne, non pas seulement la flicaille avec ses matraques, la police, c'est tout ce qui concerne la gestion et la redistribution des biens publics. C'est tout ce qui concerne l'administration au sens rigoureux du terme. Ce n'est ni méprisable en soi, ni tyrannique, mais je crois que le peuple est ailleurs et que la politique consiste en tout autre chose. Cette position étatique sur le peuple engage au fond l'idée que le peuple n'existe que dans et à travers ceux qui parlent en son nom. Et on a un dispositif effectivement qui est le dispositif de la représentation, où la parole du peuple, il n'est pas difficile de l'entendre, il faut et il suffit d'écouter la parole de ceux qui sont là en son nom, de ceux qui sont justement ses représentants. La conséquence de cela, on le trouve notamment dans le thème contemporain du consensus. Le consensus, si le peuple est bien ce que l'État en dit, le consensus est alors la norme de la bonne politique. Et ce qui se perd, évidemment, c'est la dimension de combat, la dimension agonistique propre à la politique démocratique. Cette position se heurte à une série de difficultés qui, à mon sens, sont des difficultés insurmontables. J'en prendrai comme exemple trois, tous les trois pris dans le moment contemporain. Premier exemple, celui du référendum sur le traité constitutionnel européen. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Il me semble que, mon analyse n'a rien de très original, on peut dégager trois traits pour cerner ce moment du référendum sur le traité constitutionnel européen en France. Premier moment, l'affirmation du point de vue du chef de l'État, du point de vue de l'État, selon laquelle il est nécessaire de consulter le peuple. D'où l'organisation d'un référendum, parce que le peuple est la seule source de légitimité politique. Donc, puisqu'il s'agissait de jouer sur un problème constitutionnel, il fallait consulter le peuple. Exactement en même temps, la campagne se développe sur le thème « Il n'y a qu'une seule réponse raisonnable ». Le peuple, dans sa vérité, ne peut pas répondre non. Et on voit tout de suite une contradiction, où on a érigé une vérité du peuple d'un côté, en même temps qu'on montrait la nécessité de le consulter. Cette contradiction a éclaté au grand jour assez vite, et je pense qu'elle est, pour une part importante, la raison de la majorité de non. Parce que les électeurs ont senti, si ce n'est vu clairement, cette contradiction, mais elle était vraiment patente. Une fois le résultat acquis, une fois qu'on a constaté que le peuple n'était pas raisonnable, c'est-à-dire que le peuple n'était pas le peuple. Ah oui, si le peuple n'est pas conforme à la raison, c'est qu'il n'est pas à ce moment-là véritablement le peuple. Eh bien, on cherche à contourner le résultat, toujours au nom du peuple. C'est-à-dire au nom de l'intérêt bien compris du peuple, le peuple ayant été dévoyé de son propre point de vue. Deuxième exemple, que je traiterai un petit peu plus longuement, et qui me permet de reprendre l'un des trois mots que Annie m'avait proposé comme sujet de cette conférence ce soir. Ce que j'appellerais le thème journalistique du populisme. Je ne dis pas le populisme. Je me garderais bien de parler du populisme comme si c'était quelque chose d'attestable, de facilement repérable, de facilement déterminable. Mais je prends l'usage du mot populisme dans le vocabulaire, en particulier dans le vocabulaire des journalistes, mais aussi dans le vocabulaire des hommes politiques. Usage qui, au sens où il est pris, n'est pas très ancien. Ce mot signifiait autre chose au début du XXe siècle, par exemple, un courant artistique en particulier, et il existe encore aujourd'hui un prix populiste. Louis Guillou, qui est un auteur romancier pour moi tout à fait important, tout à fait admirable, se réclame d'un courant populiste. Et ça n'a rien à voir avec l'usage que les journalistes et les hommes politiques font de ce terme depuis une vingtaine d'années. Le terme étant utilisé pour désigner le fond politique du Front National. Le mot a été pris, je pense, il faudra en faire l'histoire détaillée, ce que je n'ai pas fait, pour répondre à un slogan fort du Front National, fort phonétiquement parlant et politiquement parlant aussi, qui était Le Pen, le peuple. La puissance phonétique venait comme coup de poing pour souligner la vérité idéologique du propos. Or, qu'est-ce que c'est que la politique du Front National ? C'est une politique nationaliste, xénophobe et démagogique, qui considère le peuple comme une substance transhistorique, qui a une définition ethnique du peuple, en particulier du peuple français. Qui soutient que le peuple n'est réellement qu'à la condition de se préserver de l'impureté venue de l'étranger, et qui soutient que, en se préservant de cette impureté venue de l'étranger, tous les problèmes qu'il rencontre pourront être résolus. Or, que dit le mot populiste ? Que dit le mot populiste dans l'usage journalistique de ce terme ? Que ceux qui sont sensibles à ce discours nationaliste, xénophobe et démagogique, sont d'abord du peuple. Que le peuple, dans son ignorance, est facilement manipulable parce qu'il ne comprend pas le caractère éminemment raisonnable des élites, parce qu'il est fasciné par les chefs, parce qu'il désire un rapport fusionnel avec eux. Ces remarques touchent à des questions réelles, touche à la question de l'éducation comme condition de possibilité de la démocratie, touche au problème de l'autorité, en particulier de l'autorité du chef, en politique. Mais souligner le caractère, étiqueté comme populiste plutôt, le caractère du Front National, c'est souligner que le peuple est par nature sujet à errance, sujet à être manipulé. Troisième exemple, le thème philosophique ou idéologique de l'individualisme consumériste. Thème intéressant parce que c'est un thème qui sert de principe à une critique de gauche, essentiellement de gauche, de la démocratie parlementaire. Il consiste à reprendre une part de la critique que Tocqueville avait adressé de la démocratie à la fin du XIXe siècle et qui soutenait que la démocratie, c'est ce régime qui est animé par le désir d'égalité des conditions. Le principe de la critique est donc le suivant. La démocratie ferait elle-même courir des risques mortels à la démocratie. Il y a dans la démocratie des causes de la crise de la démocratie. C'est la démocratie qui est cause de sa propre crise, c'est la démocratie qui engendre elle-même sa propre destruction. Sous trois thèmes essentiellement, d'une part, la liberté d'expression essentielle à la démocratie devient aujourd'hui le droit de chacun, y compris de l'ignorant ou du jeune barbare, à dire n'importe quoi. La démocratie doit donc limiter la parole démocratique. Deuxième thème, les droits de l'homme deviennent des droits à et engagent une course aux revendications démagogiques et insignifiantes. Droit au travail, droit au logement, droit au bonheur, etc. Marquant par là la méconnaissance profonde dans laquelle ceux qui développent ces thèmes, sont de ce qu'est réellement le droit. Troisième thème, mai 68 a vu se développer un narcissisme général. Ce narcissisme général tombe dans un consumérisme généralisé qui fait que chacun ne pense plus qu'à soi-même et que donc le peuple se dissout dans la masse des individus consommateurs. À mon sens, ces trois exemples sont symptômes de la difficulté, non pas du concept de peuple, non pas du concept de démocratie, mais sont symptômes de la difficulté ou de l'impasse dans laquelle se trouve une notion étatique de peuple dont on occulte la généalogie. Cette notion étatique, si je la rassemble dans sa signification théorique, c'est cette notion qui soutient que le peuple n'existe que sous l'autorité de l'État. Que le peuple n'existe que par l'État qui le représente. Ce peuple affirme son identité en s'opposant aux autres peuples étrangers avec lesquels il est toujours en état de guerre potentielle. Mais ce peuple procède d'une transformation interne qui est ce que les théoriciens du XVIIe et du XVIIIe siècle ont appelé le passage de la multitude ou de la foule au peuple, passage qui est assuré par le pacte social. Or, ce qui est frappant quand on lit les théories du peuple, c'est que si le peuple résulte d'une transformation de la foule, si le peuple est considéré comme résultat d'une mutation interne transformant la multitude en foule, cette transformation n'est jamais achevée, cette transformation est toujours à faire, la foule, la multitude menace toujours, comme de l'intérieur, le peuple. Ce qui est frappant donc dans cette caractérisation étatique du peuple, c'est que le peuple est pensé toujours comme pouvant être détruit par en dessous, détruit par lui-même, détruit par ce qu'il a été. Et ce qui est frappant, par conséquent, c'est que la constitution étatique du peuple va tracer, d'une part, une ligne de frontière avec l'extérieur. Un peuple se définit par opposition avec un autre peuple, et tracer en pointillé une sorte de ligne de frontière intérieure. Un peuple, dans sa vérité, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la multitude, ce n'est pas la masse, ce n'est pas la banlieue, ce n'est pas les voyous, ce n'est pas la populace. Autant de noms pour indiquer quelque chose comme, je n'aime pas le terme, j'utilise simplement par commodité, mais je me garderai bien de le prendre au sérieux, quelque chose comme un ennemi intérieur. Il y a, dans la définition étatique du peuple, toujours un ennemi désigné extérieur, un cancer possible intérieur. Et c'est de cette manière-là que le peuple peut devenir objet d'une politique d'État. Alors à partir de là, je vais revenir à la question, c'est qui le peuple ? Et je trouve intéressant, fécond, la faute de français qui est commise. Peuple répond à une question qui et pas à une question quoi. Peuple répond à une question qui et pas à une question qu'est-ce que. La question qui, c'est la question qui vient chercher un sujet. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas automatique, ce n'est pas facile. Le sujet risque de devenir une substance. Une substance, c'est ce qui répond justement à la question « quoi ?», c'est ce qui répond à la question « qu'est-ce que ?». Donc, il n'y a pas de magie des mots. Suffit pas de se demander « qui est le peuple ?»« Qui est le peuple ?» et non pas « qui est du peuple ?» suffit pas de se poser la question qui est le peuple pour qu'on ait une réponse active et non pas une réponse en termes d'objet. À quelles conditions peut-on parvenir à penser un peuple sujet? J'en verrai essentiellement deux, et évidemment c'est l'essentiel sans doute d'une discussion à venir. Première condition, à condition justement de ne pas chercher une propriété essentielle, quelle qu'elle soit, ethnique, économique, sociale, objective d'une quelconque manière, pour délimiter ce qu'est le peuple. Autrement dit, à condition de s'appuyer sur la dimension conflictuelle de la démocratie. Il n'y a de peuple que dans un conflit. Il n'y a de peuple que par du conflit. Là où il n'y a pas conflit, il n'y aura jamais peuple. Là où il n'y a pas conflit, il y aura peut-être troupeau, il y aura peut-être peuple au sens où l'État le dit, il y aura peuple objectivé. Là où il n'y a pas conflit, il ne peut pas y avoir sujet actif qu'on appellerait peuple. Autrement dit, là où il y a consensus, il n'y a pas peuple. Il ne peut pas y avoir de peuple dans le consensus. Il ne peut y avoir de peuple que dans le dissensus. Mais quel conflit? Voilà le problème, peut-être le plus difficile, et sans doute celui de la deuxième condition. Conflit contre l'étranger, oui, ça peut constituer un peuple, au risque que ce soit un peuple nationaliste. Conflit contre l'ennemi intérieur, alors là, sans aucune ambiguïté, c'est une affirmation identitaire, voire xénophobe. L'exemple pas si lointain de la guerre d'Algérie est là pour nous le rappeler. Conflit contre l'État ou les gouvernants, alors là, on peut tomber facilement dans la démagogie, dans ce qu'on appelle le populisme. Donc, la nature du conflit est essentielle pour comprendre comment du peuple sujet peut se constituer. D'où ma deuxième condition. Je crois que ne peut se constituer du peuple sujet qu'à propos ou autour d'un conflit qui porte justement sur ces inclus-exclus dont je parlais tout à l'heure, qui porte sur cette fraction qui est inclue dans l'entité politique pour en être exclue, qui est inclue au titre de l'exclu. Ces fractions qui sont dénommées toujours par des termes péjoratifs, toujours par des termes dévaluants, j'en ai cité un certain nombre tout de suite, la foule, la masse, la populace, la banlieue, le jeune de banlieue, l'immigré, le précaire, le pauvre, les noms changent. Et depuis que la politique existe, depuis l'Antiquité, les noms ne cessent de changer de ceux qui sont à l'intérieur en tant qu'ils sont exclus. Dans mon jargon, j'appelle ça une inclusion exclusive. Une inclusion pour inclure. Le peuple de l'État, le peuple pour l'État, c'est le peuple administré. C'est l'ensemble de ceux qui sont administrés, à qui sont distribués plus ou moins bien, plus ou moins justement, à la fois une place sociale et des bénéfices liés à cette place sociale. Ce peuple-là peut entrer en conflit avec l'État pour demander que les bénéfices soient autrement distribués. Mais au fond, en maintenant la règle fondamentale de partage. Je soutiendrai, en reprenant cette idée à Rancière, en reprenant à mon compte une idée de Rancière, je soutiendrai que le problème politique et que le conflit politique, c'est ce conflit qui surgit, qui survient, lorsque ceux qui ne sont pas pris dans la règle de distribution, lorsque ceux qui ne sont pas concernés par la règle de distribution, lorsque ceux que Rancière appelle très joliment les sans-part, viennent mettre en cause le principe même de la règle de distribution existante. Quand un conflit vient se nouer autour de la question de savoir si tout le monde ou non est concerné par la distribution des biens, alors du peuple peut exister. Je ne veux pas dire par là que le peuple, c'est ceux qui sont exclus du partage social des biens. Cela reviendrait à les qualifier par une propriété substantielle, ce que je me suis interdit de faire. Aucune propriété, je crois que c'est pour moi le point essentiel, aucune propriété, aucune qualité, être blanc, vert, gagner tant, etc., aucune propriété, aucune qualité objective ne peut permettre de délimiter du peuple. Ni social, ni ethnique, ni communautaire, aucune propriété ne peut permettre de délimiter du peuple. Donc ce n'est pas le fait d'être exclu qui va faire de ceux qui sont exclus de la règle de partage qui va en faire des membres du peuple, bien au contraire. Non, c'est que quand le conflit surgit de ce côté-là, quand le conflit porte sur la légitimité ou non de la règle de partage social, de la règle de partage économique, quand le conflit surgit à ce niveau-là, du peuple peut se constituer par affirmation d'un sujet collectif, par affirmation d'un « nous » qui s'identifie à ce qu'ils ne sont pas, qui s'identifient à ceux qui revendiquent une modification de la règle. Il y a peuple quand un assemblement se constitue pour dire quelque chose comme « nous sommes ce que nous ne sommes pas », pour dire quelque chose comme cette formule de mai 68, « nous sommes tous des juifs allemands », il est évident que tous ceux qui criaient « nous sommes tous des juifs allemands », la plupart n'étaient ni allemands ni juifs. Nous sommes ce que nous ne sommes pas, nous nous identifions à cela qui est exclu de la règle du partage. À ce moment-là, dans cette espèce de révolte affirmative-là, se constitue ce que j'appelle un sujet peuple, sujet qui est toujours précaire, sujet qui est toujours l'enjeu d'un conflit idéologique en particulier. Il n'y a donc de peuple toujours que contre un autre peuple. Il n'y a de peuple qu'en affirmant quelque chose contre, il n'y a de peuple que dans le conflit, et dans un conflit qui porte sur ce qui constitue l'essence de l'État, la règle de partage, et qui va mettre en place sans doute une autre règle de partage et qui engagera pour un peu plus tard une autre espèce de conflit. Il n'y a de peuple que dans ce type d'affirmation polémique et non pas, je crois, dans le consensus. J'ai à peu près tenu les temps. Donc ça nous laisse un petit moment de discussion. Annie m'avait demandé de ne pas trop parler. J'ai en partie résolu le problème en parlant vite. Mais... des questions. questions ou des objections. Je ne vois pas pourquoi seulement des questions.
Discussion. Merci. Vous avez parlé de cette expression « nous sommes tous des juifs allemands ». Là, je vous suis. C'est une identification à la partie qui est exclue du peuple. Mais que faire de « nous sommes le peuple » qu'ont crié les Allemands de l'Est lors de la chute du mur, juste avant. Là, il me semble qu'il n'y a pas d'exclusion. Ils se sont au contraire constitués en tant que corps du peuple contre un gouvernement.
Le problème me semble du même genre, du même ordre. C'est-à-dire qu'ils se constituent contre une règle de distribution, contre une règle de partage, qui était celle qui empêchait toute espèce de délibération politique, celle qui empêchait toute espèce de passage, en l'occurrence de passage du mur. C'est un assemblement affirmatif qui remet en cause, de la même manière, une règle existante, une règle étatique existante, dans un conflit qui oppose à l'État et qui aboutit au renversement de cet État et à la transformation de la règle de partage de l'espace public, de l'espace politique dans ce moment-là. On est bien dans un jeu polémique, on est bien dans un jeu d'opposition et je doute simplement que ce « nous sommes le peuple » soit absolument unanime. C'est peut-être là qu'on pourrait... Oui, bien sûr, mais il le criait contre. Bah oui, il le criait contre. Il le criait contre.
Oui, mais pas contre une partie de... Pas contre une partie de ceux qui sont restés chez eux.
Non.
C'est la différence entre nous sommes tous des juifs allemands et nous sommes le peuple. Là, l'un est contre s'identifiant à une partie du peuple,
justement.
Et l'autre, c'est contre une autre espèce qui sont les gouvernants ou les représentants du peuple.
Je me demande un petit peu si on voit une notion de peuple dans une mobilité permanente et dans une construction uniquement politique, où est la place de la construction identitaire individuelle au sein du peuple? Est-ce que vous la niez complètement? Est-ce que comment est-ce qu'on peut le replacer? Construire identitairement dans quelque chose qui est en constante mobilité est extrêmement difficile, et me construire identitairement uniquement par rapport à une notion de conflit me paraît assez négatif.
J'essaye de raisonner, de faire de la catégorie de peuple, du concept de peuple, effectivement un concept de la politique. Je ne pense pas qu'il résolve tous les problèmes et je ne pense pas du tout que ce concept puisse résoudre les problèmes de la construction de l'identité psychologique d'un individu. Par contre, il y a un aspect de cette identité. C'est-à-dire, je pense que ce concept de peuple, élaboré conflictuellement, non pas tant est sujet qu'il subjective les individus. C'est-à-dire qu'il en fait des agents de leur action politique. Mais la politique n'est pas tout. Donc, je ne prétends pas du tout, loin s'en faut, qu'avec ça, on arrive à résoudre tous les problèmes de la construction de l'identité individuelle ou l'identité personnelle. Donc, alors, je comprends mal la question.
Non, dans le sens où j'ai l'impression de me faire voler quelque chose. J'ai l'impression qu'on me retire un référent auquel j'ai besoin de me raccrocher.
Explicité.
J'ai besoin de faire partie d'un peuple et d'une nation. Si on me le retire et qu'on me le place uniquement dans une notion de revendication et d'identification, qui en mobilité, j'aime beaucoup cette notion de mobilité et de perpétuelle transformation, mais est-ce qu'on peut limiter la notion de peuple à cette définition ? Ou est-ce que ce n'est pas simplement un positionnement ?
D'une part, je ne la limite pas. Elle est ambiguë et elle a des usages qui sont des usages contradictoires. Dimension ethnique, dimension sociale, dimension juridique ou étatique. J'en ai parlé sur deux d'entre elles assez longuement. Ce sur quoi j'insiste, c'est que si on se focalise sur un peuple défini ethniquement ou socialement à partir de qualités objectives, on entre nécessairement, y compris au niveau de la question individuelle de l'appartenance à, on entre nécessairement dans des contradictions, dans des difficultés que je trouve insurmontables. J'ai essayé par des exemples de montrer en quoi elles étaient insurmontables, dans quelles contradictions on se trouvait empêtré. Et que pour sortir de ces contradictions-là, il est nécessaire, certains philosophes contemporains disent, en conséquence, il faut abandonner la notion de peuple. À la place de la notion de peuple, il faut mettre autre chose, par exemple celle de multitude. Et c'est une pensée, une hypothèse très forte. J'ai été tenté par cette hypothèse pendant un moment. Et puis à la réflexion, j'ai trouvé qu'elle était incorrecte, qu'elle passait à côté d'une question essentielle, qui est justement celle qui tient à ce que j'ai appelé la précarité de la notion de peuple, à sa fragilité et à sa dimension polémique, qui tient au fait que la multitude, c'est un assemblement qui va se définir essentiellement de façon mathématique. Un assemblement de haine sur un objet, et cet assemblement peut être à géométrie variable en changeant d'objet. Donc, ça donne, pour une part, des tactiques électorales d'ailleurs possibles, où on travaille à géométrie variable, mais on a plus que des individus qui sont capables de s'assembler ou qui ne sont pas, sur d'autres questions, capables de s'assembler. Or là, on perd, me semble-t-il, ce que vous essayez de pointer, que je trouve important. En même temps, il faut se défaire, dans ce que vous essayez de pointer, il faut se défaire des risques nationalistes, xénophobes, racialistes, racistes, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire qu'il est clair qu'au nom du peuple, il y a quand même pas mal de guerres qui se sont faites. Alors, c'est l'argument un peu fort de mes collègues qui disent qu'il faut absolument abandonner les peuples, parce que si on fait l'histoire... Si on fait l'histoire de cette notion de peuple, rien qu'au XIXe siècle, on est horrifié de ce qui se fait précisément au nom du peuple. Donc, cette notion est un attrape-nigaud, c'est une notion dangereuse, il faut nécessairement la faire exploser. Je ne crois pas. Je ne crois pas, j'ai essayé de faire apercevoir pourquoi. En particulier parce qu'elle est susceptible justement de subjectiver des individus. Et que cette question, affirmer un nous, poser un nous, et sur les deux modes que qu'on peut dire. Je prends à mon compte le nous sommes le peuple. Parce que quand on dit nous sommes le peuple, on s'adresse à quelqu'un, justement, qui en est exclu, qui n'en est pas. Celui qui dit nous sommes, ceux qui disent nous sommes le peuple, disent c'est nous et pas vous. C'est nous et pas vous. Et en particulier un RDA disait c'est nous et pas vous qui parlez au nom du peuple en vous prétendant être le parti du peuple ou l'état du peuple. Donc on est bien toujours dans ce jeu polémique. Or, ce qui me paraît important, je ne sais pas, c'est pas confortable, j'admets l'inconfort, mais c'est pour ça que je fais ce boulot de philosophe, c'est pour chercher l'inconfort, j'admets l'inconfort, et donc il y a un problème après de communication sans doute. C'est inconfortable, mais c'est essentiel de soutenir que le peuple n'existe qu'en acte. Et si on soutient que le peuple n'existe qu'en acte, que dans l'activité, alors, effectivement, on se garantit, on se pare en tout cas beaucoup contre tous les dangers qui vont dire j'ai la propriété, moi, individu tel, je gagne tant, donc je suis du peuple, je travaille à tel endroit, donc je suis du peuple, toi tu travailles là, donc tu n'es pas du peuple, ou je suis né depuis des parents de 25 générations, donc, etc. Je caricature tout ça, bien sûr. Ce qui fait que je suis du peuple, c'est que j'ai été tiré de mon apathie par une convocation collective et que je réponds à cette convocation politique, collective et politique. C'est-à-dire que je suis à même d'agir avec nous les autres. Pas avec eux. Je viens comme élément constituant un nous. Et cette constitution d'un nous, elle est fragile. Elle est essentiellement fragile. Elle a à être réactivée sans arrêt. Et on voit bien comment le nous peut se transformer en il très, très, très facilement. Alors, je prétends pas vous rassurer, mais d'accord, je comprends mieux votre question que je comprenais mal au début. Peuple, c'est une manière de sujet collectif. Donc, aussi de faire devenir sujet des individus qui sont dans une certaine passivité pendant un temps. Le peuple n'est pas passif. Il y a peuple dans cette activité même. Je ne sais pas si je réponds complètement. Je ne prétends pas rassurer, bien au contraire. Mais j'essaye de faire voir qu'effectivement, un peuple qui s'assemble, subjective des individus qui l'attirent. Des espèces de convocations, quoi. Venez avec nous. On est déjà un certain nombre. Venez avec nous. Il y a un geste à faire, il y a un acte à faire. On est avec ou on n'est pas avec. Alors, il y a peut-être trois figures. L'être avec, l'être contre et l'indécision qui va être l'enjeu des deux qui vont se confronter et qui risque évidemment de s'ossifier, qui risque évidemment de se figer et d'affirmer on est avec, c'est-à-dire on a la médaille qui et à ce moment-là, ça y est, ça retombe, c'est fichu. Mais je crois qu'il y a à travailler cette fragilité essentielle. S'il y a quelque chose dont il faut se débarrasser, à mon sens, de la notion de peuple, c'est tout ce qui peut faire qu'on définit le peuple par une qualité objective quelconque. Ça, c'est inconfortable, je l'entends bien, mais ça me paraît essentiel parce que là, on a payé trop cher, c'est plus possible. Quoi. On a payé trop cher avec ça. Quoi. Je pense à une belle formule de Sartre au début des réflexions sur la question juive, où il fait la, il dresse le portrait caricatural de l'antisémite. Et il dit l'antisémite, pour l'antisémite, un juif ne pourra jamais comprendre Racine. Parce que pour comprendre Racine, il faut avoir des générations et des générations de francité dans le sang. Il a beau être prof de fac, prof de littérature, enseigner Racine à la Sorbonne, si c'est un juif, il ne comprendra jamais Racine. Là, on est vraiment dans les limites. Mais c'est, quand on lit un certain nombre de textes antisémites de la fin de la première moitié du XXe siècle, on a vraiment... Sartre ne caricature pas. Il y a des textes qui disent profondément ça. Ces qualités substantielles-là, il faut vraiment débarrasser la notion de peuple de toute cette espèce de qualité substantielle, et que ce soit pour des qualités substantielles de type ethnique, où là, on sera vite d'accord pour dire, bah oui, on n'en est pas, quoi. Bon, je pense qu'ici, on sera vite d'accord pour dire ça, quoi. Il n'y a pas de problème. Pas de doute là-dessus. Si on rentre sur des catégories, sur des qualités de type économique, là, on serait peut-être moins d'accord. Catégoriser socialement ou économiquement le peuple, tracer cette frontière qui fait qu'il y a d'un côté, on en est, de l'autre côté, on n'en est pas. Là, je pense que dans le débat politique français, on n'en est pas encore, on n'est pas complètement sorti de ça. Mais je pense que toute espèce de catégorisation substantielle vient tomber sur ce type de contradiction.
Oui, à propos de ça, je voudrais revenir un peu au populisme, parce que c'est un exemple actuel avec ce qui se passe chez nous, en France, d'accord, mais aussi, surtout, je pense à l'Italie, où il y a quand même une division... Là, elle n'est pas raciste, elle n'est pas du tout basée sur la xénophobie, elle est basée vraiment sur le consumérisme, et le consumérisme en plus culturel, c'est-à-dire de la télévision haute dose et menée par un populiste, c'est-à-dire Berlusconi qui possède au moins 5 chaînes, je ne sais pas combien, plus quelque part dans la presse People et Glamour. Donc, ce consumérisme, ça, je pense que ça, c'est quand même un danger du populisme actuel, parce que tous les dirigeants, finalement, se servent de ça. Se servent de ça, le savent, et savent le manipuler, et ceci... au moins depuis la découverte de Freud, de l'inconscient, et son neveu Bernays, Edward Bernays, ce qui en a fait un instrument de marketing politique et consumériste, justement. Voilà. Si vous pouviez revenir un peu sur le populisme, c'est dangereux.
Oui, oui. Bon, j'ai laissé transparaître... c'est une étiquette que je n'utilise pas. Populiste, c'est une étiquette que je n'utilise pas. J'ai essayé d'en proposer très, très schématiquement, très superficiellement, une sorte de lecture symptomale. De quoi est-ce que c'est le symptôme, l'usage de ce terme, de quoi l'usage de ce terme est-il le symptôme? Je ne prétends pas à la précision et à l'exhaustivité de mon analyse. Mais c'est une étiquette qui me gêne. Sur Berlusconi, il y a aussi du racisme très, très, très ouvert. Je vais assez souvent en Italie. Cet été, j'ai été tout à fait frappé d'entendre un qualificatif, qui est le qualificatif de Roumain. Ah, celui-là, c'est un Roumain. J'étais en montagne avec un Italien... connaissance, il me dit, oulala, cette serveuse, c'est une Roumaine. Il s'est avéré qu'elle était croate, mais il y a le groupe des Roumains. Alors, les Roumains, c'est l'envahisseur. Et incontestablement, Berlusconi manipule, joue vraiment sur les deux registres, sur le consumérisme incontestablement, mais à mon sens tout aussi incontestablement, sur le risque d'invasion de l'étranger, sur la xénophobie. Il y a incontestablement un jeu xénophobe de sa part. Démagogie, xénophobie, nationalisme, consumérisme. Il y a au moins ces quatre termes qui entrent dans sa politique. Qu'est-ce qu'on gagne en disant populiste? Qu'est-ce qu'on cherche à dire en disant populiste? C'est pour ça que le terme de populiste me gêne. Ce qu'on cherche à dire en disant populiste, on cherche à dire le peuple est un imbécile. C'est ça le problème, et c'est là où l'usage du terme populiste, moi, me pose beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'on cherche à dévaluer et la notion de peuple, après tout, si elle est à mettre à la poubelle, il faut le dire, et on la met à la poubelle. Ça ne me dérangerait pas en soi. J'ai essayé d'expliquer pourquoi je pense qu'elle mérite d'être sauvée. Mais ça se discute, évidemment. Et on cherche à soutenir, au fond, cette thèse-là, si on revient à la France, mais ce sera la même chose au fond pour l'Italie. Regardez ces gens dits du peuple, regardez ce peuple, ils sont tombés d'une imbécilité dans l'autre. Cet électorat qui votait pour le Parti communiste il y a quelques années, bon, la réalité la rejoint, il ne vote plus pour lui, mais alors il se met à voter pour le Front National ou il se met à voter pour Berlusconi. C'est au fond, en caricaturant, me semble-t-il, le raisonnement que le mot populiste vient sceller. Il y a un trait d'union, et tant pis si les sondages ne sont pas tout à fait corrects, il y a un trait d'union, le mot populiste vient établir une sorte de trait d'union entre le vote communiste des banlieues rouges en France ou le vote pour le PCI en Italie et le vote pour la droite extrême en France ou la droite berlusconienne nationaliste en Italie. Et donc du coup on se dispense aussi de faire des analyses sociologiques un petit peu plus fines pour voir exactement ce qu'il en est. Mais peu importe les analyses sociologiques. Je crois que ce qui se joue, c'est cette idée que le peuple ignorant par nature ne peut que se laisser berner par des démagogues et qu'il faut nécessairement que les experts ou que l'élite prennent le pouvoir en contournant les choix malheureux que ce dit peuple ignorant fait nécessairement. C'est ça, si je caricature un peu, c'est ça qui me gêne dans l'usage du terme populiste. Et dans la mise en avant du consumérisme par un certain nombre de penseurs et de philosophes de gauche, je trouve en partie le même type de problème. C'est-à-dire que on décrète par principe l'incapacité de faire du collectif, de faire du nous populaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui autorise une telle affirmation? Là, je ne vois pas de raison à dire, c'est fichu, le peuple est nécessairement atomisé en individus consommateurs et chacun ne pense plus que à la consommation, chacun ne pense plus que aux intérêts, est pris dans un calcul d'intérêts, ne pense plus que aux bénéfices qu'ils pourront trouver. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une version mélancolique de gauche sur le thème du consumérisme. Bon, je vois pas trop où elle nous conduit, quoi. Je vois pas trop où elle conduit. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui.
Tout ce que vous avez dit tout à l'heure souligne ça. Hein. Je pense à un philosophe Bernard Stiegler, lui, il dénonce le consumérisme, mais en même temps, je ne pense pas qu'il soit mélancolique du tout. C'est un bâton.
C'est un bâton. C'est pas Stiegler que je pensais en premier. Oui, oui.
Il parle en même temps de la contribution, qui peut être aussi populaire. Donc, c'est pas seulement du consumérisme. Mais il faut un effort pour ça.
Oui, là, je vous suis complètement. Simplement, je pense que la simple dénonciation de la consommation aboutit à cette espèce de mélancolie qui constate l'impuissance de la politique et l'impuissance de faire quoi que ce soit de fondamental en politique aujourd'hui. La seule dénonciation ne fait rien avancer.
Oui. Des propos populaires sont des propos qui suscitent l'adhésion ou l'accord d'un grand nombre parmi le peuple, tandis que des propos populistes sont des propos qui sont proférés par quelqu'un qui prend le peuple pour un con ou pour des cons. Donc je ne pense pas que la notion populiste dévalorise, soit dévalorisante pour le peuple. Elle signale un point de vue sur le peuple qui est un point de vue méprisant. Cela allant de pair, me semble-t-il, avec le fait que la notion même de peuple, ça va dans le sens de ce qui a été proposé, à chaque fois suppose des points de vue sur le peuple. C'est-à-dire, le peuple, c'est un nom qui fait fonctionner de l'altérité tous azimuts, et en particulier, peuple suppose, dans la plupart des cas, un point de vue sur le peuple. Soit dans les conflits, soit si on dit pareil, j'essaie de penser à tous les verbes qui peuvent aller avec le peuple. Le peuple s'éveille, le peuple prend les armes, donc on a bien les conflits. Mais si on dit le peuple se divertit ou que le peuple se divertisse, on voit aussitôt qu'on a un point de vue sur le peuple. On voit tout de suite le roi qui dit ça. Et donc il me semble qu'il faut. Je ne suis pas sûr que populiste dévalorise le peuple, il signale un point de vue méprisant. Sûr.
J'essaye de comprendre ce que signifie l'usage, non pas par ceux qu'on qualifie de populiste, c'est-à-dire que celui qu'on qualifie de populiste ne dira pas « je suis un populiste ». C'est vrai en France, ce ne serait pas vrai dans d'autres pays. Et il y a un usage en espagnol ou en anglais du terme populiste qui est tout à fait positif. Il y a un très beau livre, pour moi un livre très très important, d'un philosophe argentin écrivant en anglais, travaillant à Londres et donnant des cours à Chicago, et parlant assez bien français. Qu'ils appellent la raison populiste. Et c'est ce philosophe en question, c'est Ernesto Laclau. Et là, c'est L-A-U. Et populiste est chez lui un concept positif. Et donc le lecteur français, il commence par, dans la traduction française, il commence par dire, oh là, attention, je ne prends pas l'adjectif populiste au sens où... les journalistes français, une partie des philosophes français, prennent l'adjectif populiste. Donc, ça complique encore plus les choses. Mais des gens que nous qualifierons volontiers de populistes en sont fiers dans certains pays. Je pense à Perón, justement. C'est par association que le nom de Laclau m'est revenu, bien sûr. Il est clair que le mouvement péroniste se définit lui-même, s'auto-définit populiste. Je ne pense pas que Le Pen se définisse comme populiste, parce que le mot populiste a pris une connotation du fait qu'il est utilisé dans un certain contexte par certains auteurs en France. Et c'est cette connotation que j'essaye de pointer. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, c'est un terme que je n'utilise pas, que je n'arrive pas à utiliser, parce que je trouve que il en dit de trop. Et notamment, Il dit effectivement, populisme, c'est un point de vue méprisant sur le peuple. Il le dit en extériorité par rapport à ceux qui sont désignés, le peuple méprisé et l'orateur méprisant. Donc il se met en, tiers, en position tierce en disant, voilà, monsieur machin, Le Pen pour ne pas le nommer, méprise le peuple et le peuple se laisse mépriser. Ben, mon problème, il vient là. Le peuple, c'est un ensemble qui est content de se faire mépriser. C'est là où j'ai un problème avec le mot populiste. C'est que on ne peut pas éviter que dans la connotation du terme, il y a cette idée venant du journaliste analyste ou du philosophe qui est en point de vue de vérité. Moi, je suis en mesure de vous dire que le peuple, c'est un groupe qui, par moment, une bête bizarre, une bête immonde, disait Platon, c'est un groupe qui est content quand il est méprisé, même quand il est méprisé. Et on retombe un peu sur les problèmes de psychologie des foules, ce serait du Freud, mais à mon sens pas nécessairement du meilleur, du Freud influencé par le bon, pas nécessairement. Donc il y aurait. Alors je nie pas que ce phénomène n'existe pas, mais le terme vient pointer en partie ce propos-là. Donc je veux dire que le terme de populiste n'est pas un concept objectif qui va de soi et qui va sans discussion. C'est pour ça que je préfère dire démagogue, xénophobe, raciste. Il me semble que ces concepts qu'on veut synthétiser en disant bah, c'est tout ça, c'est la somme de tout ça, le type qui a les trois en même temps, c'est un populiste. Pourquoi ne pas garder les qualifications qui disent xénophobe, c'est un type qui entretient la haine de l'étranger et qui rassemble en visant l'étranger, nationaliste, c'est pas loin, mais c'est pas tout à fait pareil, raciste, ça vient se fondre, etc., etc. Démagogue, oui, c'est celui qui dit, ces solutions simples, suffit de me donner les moyens de les appliquer et vous verrez, tous vos problèmes seront résolus, il n'y a pas de difficulté à résoudre le problème. Ceux qui vous disent que c'est difficile sont des gens qui, en réalité, disent que c'est difficile pour s'en mettre plein les poches. Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernant ? C'est nécessairement quelqu'un qui s'en met plein les poches. Là, on a une position démagogique. Je préfère, c'est un mot qui existe, démagogique, et qui pointe quelque chose. Alors évidemment, de la même façon, personne ne dira « moi, je suis un démagogue ». Mais en France non plus, personne ne dit « moi, je suis un populiste ». Tu vois, c'est ça. Alors, si par populiste on entend ce que la CLO entend, alors c'est un petit peu compliqué, mais pas tant que ça. Finalement, si je le schématise, je prends toujours des risques à schématiser la pensée d'un collègue comme ça, rapidement, au pied levé. Peut-être qu'il n'écoutera pas l'enregistrement, donc je peux y aller. Bon. C'est de dire que la société est constituée d'une multiplicité de groupes qui ont des demandes vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du pouvoir étatique, qui sont des demandes hétérogènes. Comment est-ce que quelqu'un accède au pouvoir ? Il accède au pouvoir sous condition de pouvoir faire en sorte que les différentes demandes soient en quelque sorte mises en équivalence. Que chacun comprenne que si sa revendication particulière n'est pas satisfaite, c'est à cause du pouvoir en place. Et que donc, si moi je demande une augmentation de salaire, c'est équivalent aux étudiants qui demandent d'avoir des bourses ou d'avoir des profs dans leur fac. C'est équivalent aux gens de la culture qui demandent d'avoir des théâtres, etc. Qu'il n'y ait pas de sectorisation de parcellisation des demandes, mais que ces demandes puissent être considérées comme des demandes équivalentes. Non pas on s'allie sur une demande principale, mais ces demandes sont mises en équivalence. Et à ce moment-là, le pouvoir en place vacille, et celui qui est à même de se présenter comme, alors il utilise un vocabulaire lacanien, celui qui est à même de se présenter comme le signifiant de ces équivalences, est susceptible d'accéder au pouvoir. Il constitue là une unité que Laclos nomme populiste, et cette unité populiste, elle peut être soit positive et opérer un renversement émancipateur de l'État en place, mais elle peut se faire aussi sur des bases qui sont des bases nationalistes et qui, au bout du compte, n'ont rien d'émancipateur. Et on est parfois dans un jeu très ambigu de l'un à l'autre, l'un pouvant se renverser en l'autre. Voilà ce qu'il appelle. Alors là, le concept de populiste, oui, prend un sens. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que dans un mouvement émancipateur, un peuple peut aussi être envoyé sur des impasses et se trouver pris dans une logique qui est, au bout du compte, une logique qui l'amènera à sa propre aliénation. On est sans arrêt dans un jeu de bascule, et que le problème, c'est de constituer cette unité. Alors il va reprendre un concept chez Gramsci, qui est le concept d'hégémonie, de constituer une unité hégémonique pour arriver à... Alors là, effectivement, on voit comment la même relation peut basculer soit dans l'identification à un chef, soit, au contraire, dans une activité collective qui ne se laisse pas enfermer dans la démagogie d'un chef autoritaire. Et c'est vrai que le cas de l'Argentine, avec un personnage ambigu, avec le mouvement, ce mouvement ambigu qu'est le péronisme, est un cas d'école tout à fait intéressant. Vous voulez rappeler le titre de... La raison populiste, Ernesto Laclos. Et c'est publié au Seuil. Tout à fait. Mais en construisant un concept qui est un concept qui n'a rien à voir avec l'usage journalistique en France du terme populiste. C'est ça qui me paraît intéressant. Enfin, rien à voir. Il n'est que très, très marginal par rapport à cet usage français du terme populiste. Et il utilise le terme populiste de façon positive. Pour lui, c'est une catégorie positive. C'est pas du tout une catégorie péjorative. Il ne définirait pas le populisme comme le mépris du peuple. Ça peut être ça. Il y a une version du populisme qui peut être identification fusionnelle au chef, donc mépris du peuple. Mais il y a une version... Qui serait une version ou réformiste ou révolutionnaire du populisme. En ce sens, si on pourrait utiliser les catégories de Laclos pour expliquer la manière avec laquelle quelqu'un comme Obama regroupe, fait hégémonie politique. Et pour Laclos, il y a un populisme Obama. Et pourtant, dans le discours français, on ne dira pas Obama est un populiste. Oui, c'est en ce sens-là.
Moi, tu as en partie répondu, mais bon, parce que moi, je voulais poser la question autrement, en disant que, bon, définir le peuple de manière étriquée, fermée dans un pays, dans une nation, etc., etc., ça marche pas, on voit bien, et que, par ailleurs, tu as dit, il ne peut y avoir que peuple que dans le conflit, et une construction du peuple, on va dire, parce que je crois que le mot construction est important à dire, c'est qu'elle se construit, elle se déconstruit. Il n'y a pas un peuple qui reste figé, c'est impossible, donc il n'y aurait plus de peuple. Et tout d'un coup, j'ai pensé, par opposition à la définition hyper sec, limitée du peuple, tout à l'heure, tu as annoncé la multitude en disant que toi, tu n'étais pas d'accord avec ça, et j'avais envie de demander à un moment donné, mais quand est-ce qu'une multitude devient un peuple ? Enfin, tu vois, c'est à prendre un petit peu dans l'autre sens, sachant que, effectivement, ce sont des revendications je ne vais pas dire le mot corporatiste, mais bien ciblé. Et là, tu as un peu répondu, du coup, en disant, voilà, les étudiants, machin, les salariés, machin, etc. Comment, à un moment donné, ça devient égal. C'est-à-dire qu'on met tout ça dans le même panier parce qu'effectivement, il est question d'exploitation, des limites, etc. Qu'il faut, et donc, les intérêts sont communs. Donc, mais en même temps, bon, on est, je me suis dit, voilà, alors c'est le point de vue économique, simplement. Parce que si tu prends, bon... dans la multitude, ça touche différents domaines d'action. Hein, ça peut être, je sais pas, si tu prends les homosexuels par rapport à l'homophobie, bon, je dis ça parce que c'est un sujet qu'on a traité l'année dernière. Si tu prends d'autres pour la défense de la forêt, je sais pas quoi, amazonienne. Bon, donc on voit que ce sont des revendications qui peuvent être paraître très parcellaires. À quel moment ça fait peuple, quoi. C'est plus compliqué là, alors que la multitude existe. Puisqu'effectivement, on voit bien qu'il y a une espèce de déplacement dans les luttes qui sont, ne se déroulent pas des mêmes manières, c'est-à-dire que ce n'est plus dans les syndicats forcément, ce n'est pas dans les partis politiques traditionnels, qu'il y a des forces qui s'organisent d'une autre façon. Est-ce que c'est ça la multitude? Et bon, effectivement, à chaque fois je dis, mais c'est quand est-ce que ça va faire, ça va se rejoindre? Il y a eu des tentatives, on a eu des expériences comme ça. Je dis ça y est, et puis pouf, voilà. Bon, alors, est-ce que la multitude peut devenir peuple à un moment donné? Puisque, effectivement, c'est dans le conflit qu'elle se construit.
Vaste question que je prendrai par deux bouts. Le mauvais bout, d'abord, qui est le bout des théories classiques. 17e, 18e, Hobbes, Rousseau, mettons Rousseau à part. La notion de multitude désigne la foule. Et simplement la foule, où chacun pense qu'à soi-même, et donc, cette foule doit être unifiée pour devenir peuple. La réponse est donc claire, la multitude devient peuple, en reconnaissant un État qui la représente. Mais le peuple étant ce qu'il est, il est toujours par en dessous, en risque de retomber dans la multitude, en risque d'être à lui-même, je disais tout à l'heure, son propre cancer. À lui-même, c'est l'image du cancer qui me vient comme une sorte d'analogie médicale de ça, et souvent dans le propos des commentateurs ou des journalistes, c'est cette image qui va être utilisée. Ce n'est pas l'image du microbe qui est l'intrusion de l'étranger à l'extérieur, mais la... Là hein? Oui, mais je pense que c'est un autre problème. C'est-à-dire que c'est pas la même logique politique. C'est pas la même logique politique. C'est pas la même logique politique. Les images de microbes viennent toujours comme risque d'intrusion de l'étranger. C'est le problème de la pureté. L'hygiénisme, c'est ça. C'est vraiment l'extérieur qui rentre, quoi. C'est l'extérieur qui rentre. Les images de cancer en politique viennent toujours comme élément d'autodestruction intérieure. Il y a en moi-même le cancer, c'est en moi-même qui suis la cause de ma propre mort, moi-même qui suis la cause de ma propre destruction, et en plus par-dessus le marché, par une sorte de prolifération, et non pas par amenuisement, mais par énergie proliférante, par extension. Donc je pense que ça renvoie à des questions et à des schèmes politiques qui sont différents. Donc, voilà, il faut préserver le peuple contre lui-même en le préservant contre la foule. Alors, maintenant, ce n'était pas ça ta question, donc c'est pour ça que je passe très vite sur ce mauvais côté. Du point de vue des théoriciens de la multitude, le théoricien de la multitude, c'est évidemment Antonio Negri, dont le dernier livre de philosophie politique s'appelle justement « Multitude ». Il dit, il faut surtout pas que la multitude devienne peuple. Surtout pas, c'est bien la divergence que j'aurais avec eux, il ne faut surtout pas que la multitude devienne peuple. Pourquoi ? Bah parce que ce qui est essentiel dans la multitude, c'est sa pluralité. Et que ce qui est problématique, et là je les suivrai complètement, ce qui est problématique dans la notion de peuple, c'est le caractère un. C'est l'unité au mauvais sens du terme. Parce que quand on commence à dire un en philosophie classique, en métaphysique, quand on dit un, on dit Dieu, ou on dit souverain, c'est la même chose, et donc on dit en philosophie politique État. Et il y a évidemment une ligne continue dans la pensée entre Dieu, le souverain, l'État. Je caricature à peine. Donc l'intérêt du concept de multitude, si on suit Negri, c'est un argument très fort que je prends personnellement tout à fait au sérieux. Et je crois qu'il a raison de ce point de vue, c'est qu'il faut arriver à penser sans la soumission à un point de vue surplombant à un point de vue qui serait le point de vue de l'unité. Alors, le point de vue de l'unité, le point de vue de l'un, c'est l'État, mais c'est la même chose que dire que c'est le parti. Le parti, c'est la même chose que l'État. Le parti, c'est une figure insurrectionnelle qui se fonde sur la forme de l'État, sur la figure de l'État. Et donc, un parti révolutionnaire, c'est un parti qui se propose de prendre le pouvoir d'État. Et donc, il prend la même forme que l'État dont il veut prendre le pouvoir. Lénine théorise ça de façon limpide. Et les conséquences, à mon sens, ont été nécessaires. Il n'y a pas grand monde qui les a prédit, mais les conséquences ont été nécessaires. Donc c'est cette réduction à un. Il y a la voix du peuple, il est possible à un moment donné d'entendre la voix du peuple, c'est-à-dire la voix du représentant du peuple, c'est-à-dire celui qui parle au nom du peuple. Donc il ne faut pas que la multitude devienne peuple, il faut se débarrasser de la catégorie de peuple si on veut faire de la politique émancipatrice dans l'avenir. Je pense qu'ils ont tort parce que ils évacuent un problème. Ils ont raison et tort. Ils ont raison sur la réduction à un. Ils ont raison sur la réduction à un parce que effectivement, si on pense le peuple sous le nombre un, alors on le pensera d'un point de vue étatique ou d'un point de vue partisan, ce qui revient exactement au même sur le fond. On le pensera à partir de ses représentants et pas à partir de sa dynamique propre. Donc, je pense qu'ils ont tort sur un autre point. Il faut y arriver à tenir les deux ensemble, ce qui est difficile, en ce sens que ils escamotent. Du coup, ça conduit à escamoter la question du pouvoir d'État. Ça conduit à escamoter la question du rapport à l'État. Ça conduit à soutenir que la politique peut se penser indépendamment de l'État. Or, je crois qu'elle va se tenir dans une sorte de tension très, très, très fragile, toujours précaire, et qui va permettre de basculer d'un côté ou de l'autre. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de l'État en politique. Mais je ne pense pas que la politique, ça passe prioritairement par l'État. Donc, la politique sera nécessairement dans une tension vis-à-vis de l'État, sans que la question de la prise du pouvoir d'État soit une question primordiale. La politique sera nécessairement, je crois, dans une tension vis-à-vis de l'État. Et la notion de peuple, elle vient, je pense, comme un terme possible pour affirmer une politique, ce que tu décrivais en disant, bon, bah, il faut réunir, alors est-ce que c'est le terme d'alliance qu'il faut utiliser? Est-ce que c'est un autre terme, le terme d'hégémonie qui nous vient de Gramsci, qui peut être plus intéressant que celui d'alliance? Mais il faut, à un moment donné du conflit, il y a à désigner l'ennemi. Il y a à désigner un ennemi. C'est ça le problème. Et si on est dans multitude, je trouve qu'on escamote cette question-là. Donc, comment est-ce que la multitude arrive à se faire peuple? Je crois que la question doit être maintenue. Et que maintenir cette question, c'est poser effectivement le problème. J'aime bien la manière avec laquelle Laclos le pose, que j'ai schématisé tout à l'heure. C'est arriver à poser le problème de la diversité des points de vue. Mes exemples étaient certainement trop simplistes, en ce sens qu'ils étaient effectivement tous sur un terrain économico-social. Mais arriver à articuler un point de vue des groupes qui ont une demande de type économico-social, d'autres qui peuvent avoir une demande de nature symbolique, etc. Articuler, maintenir la diversité de ces points de vue et de arriver à faire en sorte qu'ils soient mis en équivalence. C'est cette mise en équivalence qui est problématique. Qu'ils soient mis en équivalence et non pas qu'on ait une alliance. Alors, le schéma marxiste des alliances de classe est un schéma qui devient pour moi extrêmement, extrêmement problématique, parce qu'on fait une alliance, c'est-à-dire que on va se faire un programme commun et puis on va faire des compromis. L'augmentation du SMIC ne sera pas aussi importante que vous, les ouvriers, vous le demandez. Mais par contre, vous n'aurez pas autant de maisons de la culture que vous, les intellos, vous en désirez. Bon, tout ça est caricatural, bien sûr. Non, il y a une diversité de demandes qui arrivent à être mises en équivalence et qui vont pouvoir se penser par rapport à une autorité, par rapport à un pouvoir qui est en mesure de les satisfaire ou de refuser de les satisfaire. Tu parlais de l'homophobie. Et pour moi, il se trouve que je lisais Laclos en même temps que j'ai été voir Harvey Milk. J'ai trouvé que la manière avec laquelle Milk fait de la politique, je trouve ce film, Harvey Milk, le film de... Comment il s'appelle ? Sean Penn, merci. Un film que je trouve absolument admirable sur le premier élu homosexuel escalité à la mairie de Los Angeles. C'est Los Angeles, San Francisco. Et la manière avec laquelle Milk fait de la politique, qui est une manière qui consiste à tenir à la fois l'identité de la communauté homosexuelle, de la communauté gay de San Francisco, et en même temps de l'élargir. Donc on n'est pas du tout dans une sorte de compromis, d'alliance et de compromis, et d'élargir à des questions qui sont des questions importantes pour les gens concernés. Je pense à cette scène admirable où on voit Milk intervenir pour effectivement que les crottes de chiens soient ramassées dans le jardin public. Enfin, dire que, on n'est pas dans l'économico-social. Mais c'est du... Mais tout à fait, tout à fait. Et il y a ce jeu qui va se constituer, qui va effectivement réunir sans qu'on soit dans une discussion. Toi, tu es le représentant des mémères à chiens, moi, je suis le représentant des gays, et donc on va se faire un compromis entre les deux et on va s'allier ensemble. C'est assez vague ce que je dis, mais c'est une espèce d'union qui ne soit pas sous le 1. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la mémère, elle va devenir lesbienne, et ça ne veut pas dire que le gay, il va avoir un toutou à promener dans le... Ce qui n'est pas exclu non plus. Bien sûr. Évidemment. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la fusion. On n'est pas dans la fusion. Et en même temps, ce qui réunit, ce qui va faire peuple, c'est aussi un conflit avec le pouvoir institutionnel. Et ce qui me gêne dans la théorie de la multitude, c'est finalement le quid du conflit avec les institutions en place. Or, je pense que la politique, ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'institution, mais que ça passe par une tension avec l'institution. Et ce qui fait peuple à un moment, c'est bien ce qui vient jouer dans une tension avec l'institution pour remettre en cause les règles en place. Et qui est maître des règles en place? C'est bien le pouvoir étatique. Le pouvoir étatique n'est pas un tigre de papier. Je ne crois pas que l'État soit un tigre de papier. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde pour croire au tigre de papier, mais je ne crois pas que l'État soit un tigre de papier. Donc il y a bien un conflit avec l'institution étatique. Et ce qui unifie un peuple, c'est dans ce conflit autour de la règle majeure, de la règle de partage.
Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à la place de multitudes les citoyens, à la place du peuple aussi? Moi, à ce moment-là, le peuple devient quelque chose de positif. Moi, je trouve que citoyen, ça serait drôlement bien si on pouvait le mettre. Parce que justement, ce à quoi vous faites allusion, les différents mouvements écologiques, homosexuels et autres. Ben, c'est des citoyens, hein, c'est des citoyens. Bon, d'accord, ça peut être catégoriel, mais c'est tout de même quelque chose de plus... Je sais pas, c'est... Citoyen, c'est nettement plus positif que...
Le peuple.
Oui, avec tout ce que... Toutes les... Non, mais je pense quand même... Vous avez mentionné le 17e, 18e, 19e siècle, mais c'est le 20e siècle qui a foutu de...
Enfin, je viens de pas mal.
Oui, mais alors le 20e avec Hitler, merci. Oui, hein, merci quand même. Je veux dire, les peuples se sont fait...
Non, mais ça part du 19e. Il y a un ensemble 19e, 20e, là, de ce point de vue.
Le loco, c'est tout de même pas mal. Hein, je veux dire...
Oui, non, mais ça
le peuple a marché dans la combine.
Ça va crescendo.
Il suffisait de le flatter. Vous êtes les plus beaux, aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Et voilà. Et puis, on va vous donner du travail. Le peuple a marché dans cette xénophobie hallucinante. Donc, les luttes citoyennes, moi, je préfère. Hein.
Oui, mais j'aurais la même réticence sur les citoyens que sur multitude. C'est-à-dire que, du coup, la dimension polémique, agonistique, me paraît affaiblie. Or, je pense vraiment que cette dimension est une dimension essentielle. C'est-à-dire, je crois pas que la politique se fasse de manière consensuelle. Et donc, l'ensemble des citoyens, on retombe dans le consensus. Peuple, au moins, ça fait polémique.
Citoyen, je suis en train de me dire si tu es fou. Ça renfermait l'idée de frontières, en fait, que je vous avais parlé.
Non.
Prolétaire. Tu vois, du coup, dans ma bouche peuple, c'est prolétaire. Tu vois, je bon, il y a ces choses comme ça parce que. Donc, moi, je sais pas, citoyen, je suppose que citoyen, ça, je trouvais que ça faisait. Les citoyens, quoi. Enfin, ça renvoie à la responsabilité.
Il y a la responsabilité.
Voilà,
et démocratie va avec citoyen. Voilà. Je veux dire, tu assumes ton droit de vote, tu assumes que tu es un responsable et que tu as une part à jouer, un rôle à jouer.
Mais je suis absolument d'accord avec ces définitions. En même temps, je me dis, bon, on vit quand même des farces au niveau électoral. Parfois, il y a de l'abstention.
Bah oui.
Donc, il y a. Oh, je sais pas, il y a.
Je crois qu'on est peut-être en train de compliquer les choses aussi. Parce que tout à l'heure, sur la définition du peuple, je me disais, il y a non pas un élément du peuple, c'est la déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et là, on n'est pas forcément citoyen. Alors après, ça a été reformulé par la déclaration de 48, un peu plus général, mais il y a là une notion d'égalité de droit. Et quand on se fait contester parfois, nous, ici, maison populaire, la qualification de populaire sous prétexte qu'il traîne un peu trop d'intellectuel dans ses murs, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est, parce qu'on a fait un petit peu d'études ou qu'on a gagné quelques sous, qu'on doit perdre la qualité de peuple, qu'on doit perdre l'appartenance au peuple. C'est pas parce que j'ai des sous que je perds le droit de venir ici faire de l'anglais ou de l'allemand. Bon, on va pas me retirer le droit de vote non plus. Enfin, bon, une des définitions du peuple, je pense, passe par, en gros, selon moi, la déclaration des droits de l'homme. Mais ce n'est pas suffisant. Et quand vous disiez tout à l'heure multitude, pour moi, multitude, c'est, je l'assimilerais à foule ou à troupeau, c'est-à-dire un ensemble de gens indistincts et qu'on peut manœuvrer. Il y a eu un bouquin avant-guerre intitulé, je crois que c'était Le viol des foules par la propagande politique, qui était bien à des époques de totalitarisme, comment on va faire marcher les masses entières d'un seul coup, mais non pas les faire marcher dans des intérêts qui ne sont pas celles des foules en question. Mais de manière à pouvoir dire, regardez les foules que j'ai avec moi, regardez le peuple que j'ai avec moi, la masse que j'ai avec moi. Hein, les démonstrations de Nuremberg avant le procès, il y avait de grosses manifestations de masse, mais qui étaient très organisées dans des buts politiques, et n'étaient pas forcément dans l'intérêt des individus.
Oui, mais qui fonctionnait très bien avec la notion de peuple. La notion de peuple est une notion que les nazis récupèrent sans aucune difficulté. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de mots.
Quel modèle d'épuration, quand même, ils en ont mis quelques-uns au passage.
Bien sûr, parce que non, mais parce que peuple. Ça, je suis passé vite là-dessus, mais je crois que peuple est une notion qui est par nature ambiguë. Et cette ambiguïté, on en fait deux choses. Ou bien, et je pense que c'est le discours dominant, à la fois chez les philosophes et chez les politiques, ça permet de glisser d'un sens à l'autre. Je suis amusé à essayer de mettre en place un système à neuf termes. Donc, les jeux sont simples, mais si on en prend simplement trois qui constituent l'axe du dispositif, peuple, ça peut être ensemble des citoyens, peuple, ça peut être groupe ethnique transhistorique, le peuple français depuis Vercingétorix, peuple, ça peut être un peuple social, le groupe des dominés, et on va tracer une frontière plus ou moins précise entre ceux. Et le même discours, je me suis amusé à faire le travail sur les discours de De Gaulle de 41 à 62. C'était deux grandes périodes où le mot peuple même varie de sens d'un moment à l'autre, celle de la résistance, où la seule légitimité de De Gaulle, c'est de dire je suis la voix du peuple. Je suis la voix du peuple. Je suis un général insurrectionnel. Du point de vue de la légalité, je mérite d'être fusillé. Mais je suis la voix du peuple. Je suis la voix de la France. Quel peuple? C'est quoi le peuple? Alors ça commence à... C'est pas le peuple qu'on consulterait aujourd'hui. Celui-là, il est empêché de parler. Il n'y a que moi qui parle. C'est le peuple qui remonte à Vercingétorix, le premier de nos résistants, dit-il. Donc, la exaltation du roman national, d'une certaine façon, mais d'une manière très, très, très habile. Enfin, j'ai des surprises. Mon antigonisme primaire a été un petit peu ébranlé par la lecture des textes. Et donc, il va jouer des deux peuples transhistoriques et qui s'affirment dans l'action de résistance. Il n'y a de peuple français que les résistants. L'authenticité est là, quoi. C'est-à-dire que, donc, un jeu intéressant, et il faut redonner la parole à ce peuple en organisant des élections aussi vite que possible. Un jeu comme ça à trois termes. Mais quand il dit peuple, quand on lit le discours, il faut vraiment gratter. Quand on l'entend, on a l'impression que c'est clair. Et puis quand on lit les textes et qu'on veut vraiment faire une étude de texte, on s'aperçoit que ce qui compte, c'est de pouvoir glisser d'un terme à l'autre. C'est de faire passer l'auditeur d'un terme à l'autre. Puis après, dans les discours au moment de la guerre d'Algérie, on retrouve le même genre de dispositif. Les discours autour du 13 mai sont très intéressants parce que là, c'est pareil, il s'agit de constituer un peuple autour de sa personne dans une lutte qui ne se présente pas comme guerre, qui se présente bien comme opération de police, donc qui est une lutte interne. Et là, de la même manière, il y a ce jeu entre le peuple qui se regroupe dans l'élection autour de moi de Gaulle et le peuple français dans son caractère transhistorique et l'absence de peuple algérien. Ce qui est absolument remarquable, c'est que de 58 à 62, il y a quand même un certain nombre de discours qui sont prononcés, de textes qui sont émis, le mot peuple algérien n'arrive qu'une seule fois, dans un ensemble qui doit faire entre 200 et 300 pages. Mais quand il arrive, c'est pour dire ça n'existe pas. Il n'a jamais existé. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le terme de peuple n'arrête pas de glisser. Dans le discours dominant, il n'arrête pas de glisser d'un sens à l'autre. Et dans le discours des philosophes, c'est pareil. Il y a une ambiguïté qui est, pour moi, une ambiguïté essentielle à la notion. Donc, ce que j'essaye, c'est de voir comment il peut jouer d'une façon claire. Et quand il joue d'une façon claire, c'est toujours de manière polémique. C'est toujours pour dire le peuple, c'est ça et pas ça. Quand ça se clarifie, c'est toujours dans l'affirmation d'un conflit qui est un conflit essentiel et qui remet en cause le jeu de distribution dans l'État existant et le garant. Et c'est toujours autour d'une notion, c'est toujours autour de la notion d'égalité. Le fond, toujours, le socle autour duquel peuple constitue une subjectivité, c'est on est d'accord avec l'égalité, nous, les gens du peuple, on est d'accord avec un principe d'égalité fondamentale. Et c'est cet accord sur l'égalité qui va constituer, au fond, la polémique, le conflit, l'acte par lequel le peuple est un peuple. Et c'est vrai que Rousseau le pense assez bien en la matière. L'acte par lequel le peuple est un peuple, c'est cet acte par lequel chacun, du simple fait qu'il est un humain, est égal avec n'importe qui. Donc c'est un acte affirmatif d'égalité. Et c'est pour ça que multitude ne me convient pas, parce que, alors, multitude, bon, il y a un usage classique de multitude, qui est celui que vous donniez. Il y a l'usage contemporain que les gens autour de la revue Multitude, autour d'Antonio Negri, essayent de développer, en disant, attention, et la remarque n'est pas sotte, elle n'est pas rhétorique, on utilise multitude au pluriel, ce sont les multitudes, et non la multitude. La multitude, c'est effectivement une foule, c'est effectivement une masse manipulable, mais les multitudes, c'est autre chose, parce que justement, c'est le raisonnement que j'essayais de restituer tout à l'heure, ce dont il s'agit, c'est de ne jamais réduire à un. Et là, pour moi, l'idée que on ne doit jamais réduire à un le collectif. Le nous est un nous non réductible à un. C'est un aspect, je trouve, politiquement essentiel si on veut penser une politique d'émancipation. C'est quand même une des leçons du XXe siècle. Il faut arriver à penser autrement que sous le surplomb du 1, c'est-à-dire sous le surplomb de la parole au nom de.
Mais justement, si je comprends bien que si je comprends bien le caractère pluriel de la multitude ou des multitudes, je vois mal comment on peut la mettre en confrontation au regard du 1 du peuple, dès lors qu'on ne définit plus le peuple par des propriétés substantielles, dès lors qu'on dit que peuple, enfin je reprends les termes de ton exposé, dès lors que le peuple recèle en lui-même à chaque fois ses propres conditions de constitution, disons, dès lors que le peuple est fondamentalement événementiel, il n'est pas un en tant que tel. S'il devient un, c'est toujours dans une action, dans un événement, et donc une sorte de symétrisation entre le plural ou le pluriel de multitude et le un de peuple, qui me paraît en porte-à-faux par rapport à l'exposé proposé.
Oui, non, mais merci, mais là, j'ai du mal à me faire complètement le porte-voix de que j'ai dit que ce concept de peuple, je ne suis pas le seul à l'élaborer, loin s'en faut, et je m'appuie beaucoup sur le travail de Rancière, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est tel qu'il est élaboré, je pense que c'est une réponse à l'objection. Maintenant, je ne connais pas la réponse à l'objection. je ne peux pas. On est un petit peu là, peut-être dans un dialogue de sourds, je ne sais pas, mais je prends en compte la remarque que je trouve essentielle des théoriciens des multitudes en maintenant la nécessité de peuple, précisément parce que peuple fait polémique, alors que multitude, pour moi, va trop dans le consensus, risque trop d'aller dans le consensus. Mais je ne connais pas de réponse à cette réponse. Je ne peux pas me faire. Je veux bien me dédoubler un certain nombre de fois. Il y a une limite que. Il y a une limite que je ne. Oui, je. Bon, je ne sais pas si tu fais le tiers arbitre.
Je ne savais pas quel était le personnage dans ces dédoublements que.
Il faudrait que là, qu'il y ait un autre invité, qu'on ait débattu à deux, peut-être. Bon, je ne sais pas. Jusqu'on aurait été en la matière, mais là je n'ai plus les moyens de répondre à ma propre réponse à l'objection. Quoi.
Moi, je voudrais poursuivre sur mon idée tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de Stigler, maintenant on parle de multitude, pour amener le principe de nouveaux moyens d'expression qui amène à la possibilité à chacun de rendre public une individualité et Dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut se revenir sur la notion de peuple et comment est-ce simplement amener une pierre nouvelle à la question, comment est-ce qu'un peuple peut se constituer en intégrant tous les moyens d'expression qu'on trouve tout simplement sur l'Internet où chacun se définit comme entité individuelle ou ayant des appartenances qui sont rhizomiques, mais qui sont pas fixes, ni de classe, qui peuvent être de loisirs, qui peuvent être anodines, qui peuvent être.
Il y a la langue, la géographie.
La géographie même plus.
Oui, mais on est en France.
La géographie même plus. Oui, non, mais c'est vrai que là, de ce point de vue, Internet déterritorialise. C'est-à-dire que la langue. Ça tend même à se. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de langue commune, un mauvais anglais, mais peu importe, ça fait langue commune.
Pour finir, est-ce que ça ne revient pas à la notion de populiste, où justement un des moyens d'intégrer toute cette diversité passe par une certaine simplification?
Alors, on pourrait faire cette lecture qui serait alors, une sorte de de lecture qui va dans le sens de la critique par le consumérisme. Il n'y a plus que des individus. Il n'y a plus que des individus éclatés. Ces individus éclatés, ces individus dispersés, sont pris dans la logique qui est le fond de la philosophie du libéralisme, qui est la logique du calcul d'intérêt. Et donc, le collectif comme tel n'est plus en mesure d'exister. Qu'il y ait une tendance qui aille dans ce sens-là, je le pense profondément. Simplement, je crois tout aussi profondément que les conduites des individus, rien qu'à ce niveau-là, ne sont certainement pas réductibles au modèle du calcul d'intérêt. Qu'il y a des circulations d'affects, et là, mon ami Jean-Jacques sourit à l'intérieur parce qu'il voit mon Spinoza de poche sortir de ma poche, qu'il y a des circulations d'affects qui sont telles que la rationalité du calcul d'intérêt ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner. Qu'on peut avoir des conduites qui sont déterminées par le souci de gloire, par le souci de l'orgueil, par des choses de ce type-là, et qu'au regard du calcul d'intérêt, ça va apparaître comme purement irrationnel, mais que ça constitue groupe. Alors, il n'y a rien de nécessairement optimiste dans cette affaire, parce que ça peut engager des conduites d'identification, des conduites par imitation des autres qui relèvent de la conduite de troupeau et de la conglomération d'une masse qui va, au bout du compte, se mettre dans un rapport fusionnel à un chef. Ça, c'est un des possibles. C'est un des possibles. Je pense vraiment, j'ai pas toujours pensé ça, je pense vraiment qu'il n'y a pas de nécessité absolue au cours de l'histoire. Donc, il y a différents possibles. Je ne suis pas en train de prophétiser, ni dans un sens, ni dans un autre. Et comme philosophe, je me garderai bien de faire quelque prophétisme que ce soit. Donc, je pense simplement que la logique affective des relations interindividuelles ne se laisse pas réduire au modèle du calcul d'intérêt qui est celui qui est sous-jacent à la consommation et à toutes les pressions qui nous poussent dans une direction qui est une direction de type consumériste. Et que d'autres éléments affectifs interviennent. J'aime bien de ce point de vue les analyses d'un économiste qui se déclare économiste spinoziste, donc il m'a intéressé, j'ai été le lire avec intérêt, qui est Frédéric Lordon. Parce que Frédéric Lordon écrit un très beau livre d'anthropologie économique qui essaye de dégager ces mécanismes-là en montrant justement comment les conduites sont autre chose que de l'ordre du calcul du moindre risque ou du plus grand avantage. Donc, que vont donner les relations de type Internet et comment, là j'en sais rien, mais il est clair que une part de la politique passera sans doute par là. Comment se constitue ? Elle passe déjà par là. Mais c'est le problème de la constitution du collectif, d'un collectif. Comment se constitue un nous ? On n'a pas de recette pour répondre à la question comment constituer un nous. On peut dégager les conditions qui rendent cette constitution possible, on peut dégager les conditions qui font obstacle à cette constitution, sans pour autant qu'on ait une recette à la question. Mais par contre, je crois vraiment qu'il y a une difficulté à faire une politique d'émancipation qui passe par cette idée d'un qui surplombe. C'est-à-dire que là c'est clair. Mais j'ai pas de réponse. La question que vous posez est une question cruciale. qui relève de la pratique politique et à laquelle j'ai pas de réponse en termes de moyens clairs et nets.
Pourtant, qui quelque part est partie intégrante du point de vue que...
Absolument. Absolument. Oui, non, mais c'est une question gigantesque. C'est pas son manque d'intérêt qui m'empêche de répondre.
Non, mais au contraire, peut-être que si cette situation n'existait pas, ces questions de mobilité ne se poseraient pas de la même manière.
Absolument. Surtout pas à conclure.